J'aimerais vous partager une réflexion ce soir sur la compassion. La réponse à dukkha, à cette difficulté qu'a l'être humain d'être heureux maintenant, c'est le service, la compassion, la bonté. Et combien c'est précieux, combien nous pouvons sentir cette aspiration profonde à offrir et donner ce qui est bienfaisant et le savoir le recevoir. Et c'est difficile. Le relationnel n'est pas simple. Nous avons besoin d'être reçus, de recevoir l'autre. Et quelquefois, nous nous heurtons à du non-amour. Ça se bloque. Au lieu qu'il y ait cette souplesse où nous pouvons être dans ce recevoir, donner, il y a une incompréhension et la rencontre devient impossible. Et bien sûr, nous cherchons à savoir pourquoi, qui c'est la faute, qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a beaucoup de conditions différentes. Tous, nous nous retrouvons une fois ou l'autre dans cette difficulté à dépasser nos différences. Nous ne sommes pas tous pareils et nous avons des attentes, des peurs, des exigences. L'autre nous étonne, nous frustre, nous blesse et j'étonne l'autre, je le frustre, je le blesse. Et la compassion, c'est cette merveille qui permet d'accepter que je ne suis pas parfaite et que je vais blesser, et que l'autre n'est pas parfait et qu'il va blesser. Et que ce qui se passe dans mon entourage, c'est ce qui se passe dans toutes les familles, dans toutes les nations, sur la terre et de tout temps. La compassion, c'est déjà quelque chose que nous pouvons souhaiter. Lorsque nous disons les paroles de metta ou de gratitude ou de pardon, c'est un travail d'ouverture à la compassion. Parce que le système défensif est puissant et il a cette tendance égotique où je, tant pis pour l'autre, je ne peux plus voir l'autre lorsque je suis blessée. Déjà, le souhait d'être dans la compassion. C'est une grande merveille. sentir que sur cette terre, il y a tellement de personnes qui souhaitent que l'humanité soit heureuse. Je faisais une retraite à AMS à l'époque et puis je lisais une partie, j'avais copié une partie du livre de Shantideva, Les vœux du Bodhisattva. C'est tout un livre entier où il dit tout ce qu'il aimerait offrir aux autres. Je vous le relis, il y en a certes, je l'ai déjà, je le lis souvent, j'aime ce texte, il est merveille pour donner du soin à cette imperfection humaine qui est des fois tellement désespérante. C'est un tout petit bout du livre. Que je sois un rempart pour ceux qui manquent de protection, un guide pour ceux qui voyagent sur les routes, pour ceux qui désirent traverser la rivière, que je sois un bateau, un radeau ou un pont, que je sois une île pour ceux qui ont la nostalgie de la terre ferme, et une lampe pour ceux qui aspirent à la lumière. Pour ceux qui ont besoin de repos, que je sois un lit. Et pour ceux qui demandent un serviteur, que je me fasse esclave. Que je sois le joyau désiré, une parole puissante, le vase plein et le remède suprême. Que je sois l'arbre au miracle et pour chaque être la vache de l'abondance. De même que la terre et tous les éléments, que je sache endurer ma peine comme le ciel lui-même endure, me mettant au service de la multitude des êtres vivants. Que je sois les racines et le véhicule de leur vie. Ainsi, pour toutes les petites choses qui vivent en nombre jusqu'aux confins du ciel, que je sois leur substance et leur nourriture jusqu'à ce qu'elles dépassent les limites de la souffrance. La méditation, le but de la méditation, c'est le service. Et pouvoir déjà souhaiter de pouvoir me mettre au service, de pouvoir lâcher cet égoïsme douloureux qui va lâcher à son rythme. Il ne s'agit pas de faire une fautive qui devrait, mais de voir clairement où le chemin va mener et où est-ce que je veux aller en suivant ce chemin. Et de savoir que les autres sont dans la compassion, que le cœur des autres a cette grande beauté de s'ouvrir et de souhaiter. Et de pouvoir soi-même s'ouvrir à recevoir. Il y a aussi cette compassion pour soi-même, qui est l'ouverture à dukkha dans l'instant, quand le cœur est gros. C'est vraiment une très bonne image de dire le cœur gros. Quand nous nous sentons mal aimés, que nous ne sommes pas reçus, alors que nous avons fait de notre mieux, que les autres nous font des reproches ou ne nous voient pas. Le cœur devient gros. Et la compassion, c'est d'accepter, de sentir, c'est comme ça maintenant. Bien sûr, il y a eu ce processus contact, ressenti, perception. Mais au lieu de partir dans les sankharas, dans le système défensif qui pense, qui réfléchit, pourquoi, est-ce que c'est juste, qu'est-ce que je devrais faire, j'arrête tanha, j'arrête cette soif d'avoir autre chose, et je viens de la compassion. Ah ouais, ça fait mal, le cœur est gros. Et je laisse être, ça a son temps de vie. Et pendant qu'il y a cette coexistence pacifique entre l'émotion douloureuse et la présence, la sagesse s'approfondit. Le sens du moi diminue. Et la prochaine fois, plus vite je pourrai sentir en compassion l'énergie psychophysique, et moins longtemps elle durera. Et pour finir, la rencontre compassionnée est si intime et rapide que la souffrance ne fait plus peur. C'est donc un soin. La compassion, c'est un soin que nous donnons, un soin conscient, bien sûr. La compassion est une pleine conscience de la peine. C'est un soin conscient qui c'est la vie. Lorsqu'il n'y a pas ce soin, peut-être que nous sommes en vie, mais c'est comme si nous étions déjà morts, dans notre nature aveugle, où nous prenons sans conscience. La compassion, c'est une grande force intérieure de non-peur, justement. Comme l'histoire du petit moine que je racontais à midi. Il y a d'ailleurs une très jolie histoire que j'aimerais lire. Qui vient d'un livre qui s'appelle « Dieu en enfer ». Magnifique, une famille chrétienne qui sauvait les Juifs à Rotterdam, je crois, pendant la guerre. Et puis ils ont accueilli une femme avec son bébé, et puis là où ils gardent les gens dans des espèces de placards, ils ne peuvent pas avoir un bébé qui fait du bruit. Alors il est pasteur, le père, le patriarche est pasteur, et puis il demande à un jeune pasteur qui est dans une autre situation s'il peut prendre le bébé. Et puis ce pasteur arrive, et puis la fille, Mademoiselle Tenboum, demande « Accepteriez-vous de recueillir chez vous cette femme juive et son bébé ?» Le visage de l'homme perdit toute couleur. Il fit un pas en arrière. Mademoiselle Tenboum, j'espère que vous ne travaillez pas pour ces entreprises de dissimulation illégale. Ce ne serait pas prudent, pensez à votre père. Je soulevai la petite couverture pour laisser paraître le visage du bébé. L'homme se pencha et malgré lui, sa main rechercha le petit point qui se refermait sur la couverture. Pendant un instant, son visage exprima un mélange de compassion et de crainte, puis il se durcit. Non, vraiment non, ce petit juif pourrait nous mettre en danger. Mon père, qui à notre insu se trouvait sur le pas de la porte, intervint. Donne-moi cet enfant, Cory. Papa, tenant le bébé tout près de lui, effleura sa joue de sa barbe blanche et regarda le petit visage avec des yeux aussi bleus que ceux du bébé. Vous dites que cet enfant pourrait vous coûter la vie. Je considérerais cela comme un grand privilège pour ma famille. Je sais plus s'ils ont gardé l'enfant. Je sais plus comment ça s'est passé après, mais ça m'a beaucoup touchée. Ce privilège de pouvoir sauver quelqu'un, plutôt que d'aller, comme on parlait aussi à midi et demi, dans la collaboration. Qu'est-ce que c'est douloureux pour quelqu'un qui se résigne à cette beauté de la nature humaine, de cette force compassionnée. La compassion, c'est aussi la tendresse, la consolation, la capacité de pleurer avec l'autre sans le plaindre. Il ne s'agit pas de se plaindre, il s'agit vraiment d'accepter la tristesse du monde, la mélancolie, le manque. Thich Nhat Hanh, il a cette très jolie parole, Thich Nhat Hanh, c'est que c'est cinq ou quatre paroles où il dit, la première, c'est quatre, je ne sais plus comment il les appelle, je suis là pour toi. Je sais que tu es là pour moi. Merci. Tu souffres, je vois que tu souffres. Je suis là pour toi. Et puis la dernière, qui est peut-être la plus difficile, en tout cas pour moi, je souffre. J'ai besoin de ton aide. C'est beau lorsque nous pouvons être aussi simples. Dans la communication non violente, c'est cette manière-là de communiquer qui est développée, où nous nous disons dans notre vécu de l'instant, plutôt que d'être dans la projection que l'autre a de nous, que nous avons de l'autre. Nous n'avons pas peur de l'autre, nous avons peur des projections de l'autre. C'est les sankharas qui font peur, ce n'est pas les émergences dans l'instant. Et lorsque nous partons dans la polémique où on ne peut pas se comprendre, c'est parce que ce sont les projections qui parlent et qui font ça. Mais si nous venons dans l'instant et que nous disons à l'autre, oh, tu sais, je suis en colère, l'autre peut pas dire c'est pas vrai, il peut pas dire mais non, je suis en colère, ou je suis triste. La compassion, c'est aussi une force d'engagement. Lorsque nous travaillons les paroles de metta ou de refuge, ou de bonté, le but, c'est que nous puissions appliquer ça dans nos vies et que cette dimension de service se développe non pas comme un sens du devoir, de charité chrétienne, parce que je suis une bonne fille, mais vraiment comme compréhension de la joie que le service offre au corps et à l'esprit. Et le service, ben c'est le service à l'autre, mais quand nous ne pouvons pas, nous venons dans le service à nous-mêmes. Je suis là pour toi. Nous ressentons l'expérience dans l'instant de manière à sentir que nous sommes dans la cible. Il n'y a rien d'autre à faire. Si je ne peux pas servir l'autre parce qu'il me met à l'étroit ou parce qu'il me blesse, ou ben, je viens en moi. C'est comment là? Et je sens ce cœur touché. Et alors, avec cette qualité compassionnée, nous sommes protégés d'envoyer la flèche à l'autre en croyant nous libérer de notre souffrance. À l'autre ou à la situation, c'est ta faute, c'est de la faute à qui? C'est de la faute à personne, c'est une occasion pour grandir maintenant. Et puis, dans ce questionnement sur la compassion, c'est aussi important de ne pas être dupe. L'esprit aime beaucoup se plaindre. Nous aimons beaucoup projeter tout ce qui va aller mal et nous inquiéter pour plein de choses qui pour le moment ne sont pas arrivées. Je ne sais plus qui disait, dans ma vie, j'ai eu énormément de malchance et de problèmes. La plupart d'entre eux ne sont jamais arrivés. Je voulais une petite histoire qui est... que j'ai déjà lue, mais je l'ai retrouvée, je la relis. Mon Dieu, jusqu'à présent, aujourd'hui, j'ai tout fait bien. Je ne me suis pas plainte, je n'ai pas babillé stupidement, je n'ai pas perdu patience, je n'ai pas trop mangé, j'ai été courageuse, je n'ai pas été égoïste, irritée ou méchante, je n'ai pas été trop indulgente, je suis assez fière de moi-même. Mais dans quelques minutes, Dieu, je vais sortir de mon lit. Et alors, j'aurai sûrement grand besoin de ton aide. Lorsque nous approchons de cette intimité du qui suis-je, que nous sentons comment le cœur peut devenir gros. Et qu'il y a une aspiration à laisser être et à s'ouvrir avec la pleine conscience. Nous comprenons aussi mieux l'autre et ce que nous avons rencontrer de nos propres émotions perturbatrices, nous pouvons mieux les rencontrer chez l'autre. C'est un des chemins qui mène à la compassion. L'autre, c'est cette compréhension du mystère, de la loi de cause à effet, le mystère du qui suis-je. Plutôt que de porter un regard sur moi qui est un regard purement extérieur et superficiel, lié à nos ambitions, nos complexes, nos désirs d'être ou d'avoir, de comprendre que nous sommes aussi, que nous appartenons à quelque chose de beaucoup plus large, et que le mystère du qui suis-je est vraiment à respecter. Alors nous acceptons mieux qui nous sommes et nous acceptons mieux qui est l'autre. Nous arrêtons de toujours nous demander d'être autre chose que ce qui est là et de demander à l'autre. Nous acceptons mieux ce qui nous a été donné, là où nous sommes, avec nos conditions. Nos conditions physiques, nos conditions psychiques, spirituelles. Et l'autre chose quand même qui aide beaucoup à la compassion, c'est la compréhension de l'impermanence. Lorsque nous souffrons, et que nous venons dans le corps, qu'on le sent vraiment souffrir, il est à l'étroit. La pensée arrête de paniquer, parce que quand elle panique, on n'est que là-haut, on ne peut pas sentir vraiment l'expérience telle qu'elle est. Mais nous sommes là. La pensée paniquée, c'est bon, on a plus ou moins compris. Je suis là. Et je peux bien voir que ça n'était pas là avant. Et intelligemment, avec bon sens, me souvenir que ce ne sera pas là après. Ça n'est pas que le contact qui a créé la souffrance ne sera plus là. Si c'est quelque chose qui ne peut pas être changé. Mais c'est que l'impermanence existe et que nous ne sommes pas toujours la même personne. Même si nous avons un gros problème physique ou un gros problème professionnel ou un gros problème familial, l'expérience dans l'instant, elle change toujours. Et ça permet de rester tranquillement dans la compassion avec soi-même, avec l'autre, sans inquiétude. Il n'y a pas de peur, de rejet. Il peut y avoir une quête de solution, mais elle est tranquille. Je pourrais être toi. Et toi aussi, tu es dans l'impermanence. Je Bouddhi, une petite parole du Dhammapada, c'est un des textes bouddhistes sous forme de poème. Tous les êtres tremblent devant la violence, tous ont peur de la mort, tous aiment la vie. Peux-tu te voir toi-même dans les autres? Si tu te vois toi-même dans les autres, qui peux-tu blesser? Quel mal peux-tu faire? Celui qui aspire au bonheur, en blessant ceux qui aspirent au bonheur, ne trouvera jamais le bonheur. Car ton frère est comme toi, il veut être heureux. Ne lui fais jamais de mal, et quand tu laisseras cette vie, toi aussi, tu trouveras le bonheur. C'est beau comme aspiration. Ce qui nous fait paniquer et créer la souffrance, c'est que nous oublions que nous avons ce que nous cherchons en nous. Qu'il y a ce Bouddha intérieur qui est un refuge. La prise de refuge est très importante parce qu'elle dit notre impuissance. Il y a une impuissance fondamentale de la nature humaine qui est douloureuse. Et lorsque nous prenons refuge, cette impuissance est comblée. Elle est comblée énergétiquement par, on pourrait dire, une résonance de l'infiniment petit en nous avec l'infiniment grand. Il y a comme une résonance du « qui suis-je » qui peut être rien parce qu'il sait qu'il est tout. Et quand nous questionnons notre conscience intuitive, c'est ça que nous questionnons. Ce cœur de l'être. Lorsque nous sommes découragés, que nous sentons perdus, nous avons ce choix de meubler, de fuir, de manger, de les stratégies habituelles, d'aller sur Internet. Ou bien de prendre un peu de temps pour être en compassion, sentir le vide. Parce que nous n'allons jamais trouver le plein si nous n'acceptons pas de nous ouvrir au vide. C'est tellement différent de dire « Ah, non, mais je suis complètement perdue, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Ou bien de dire « Ah oui, je vois, ah ouais, je suis complètement perdue. » On peut entendre le son de la voix qui est différent, tout le lien au réel. « Et dans l'exercice de la méditation, c'est précieux de s'intéresser à comment je me parle. Parce que quelquefois, je me dis des choses qui sont peut-être au niveau du contenu tout à fait bien, mais au niveau du comment, l'exigence est là. Ou bien la dureté. Il y a ces deux manières de communiquer, le contenu et puis la façon. C'est très douloureux quand quelqu'un nous dit « Mais oui, je t'aime ». J'écoute quoi? J'écoute quoi? Ah, je vais vous lire. Mais peut-être que vous l'avez déjà lu, c'est ça qui est terrible à mon âge des fois. Mais peut-être pas. C'est égal. J'ai trouvé ça pour cette force de la compassion. Je trouve que c'est magnifique. J'ai trouvé ça dans le courrier de Oron. C'est quelqu'un qui cherchait la signification du mot scandale. Alors, il donne différents moments où il a vu le mot scandale. Et puis, il prend un exemple. Dans le Nouveau Testament, ce mot apparut pour la première fois dans l'évangile de Matthieu 16, 23. Jésus l'utilisa pour qualifier Pierre, qui était son disciple préféré, de scandale. Toujours dans le sens d'un obstacle ou d'un piège. Son disciple voulait l'empêcher d'accomplir sa mission de souffrance. Il le repoussa en lui disant « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » C'est fort, hein? Jésus dit à Pierre, qui veut l'empêcher d'aller sur la croix, arrière de moi, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Moi, ça me touche énormément parce que c'est vraiment cette première vérité. Comprendre, accepter la souffrance, s'ouvrir à elle. Au niveau de l'image, c'est magnifique. Les pensées de Dieu, c'est vraiment ces pensées de compassion. Je m'ouvre au cœur qui est gros. Je le laisse être. Et c'est ça qui mène à la résurrection. Lorsque nous pratiquons le Tonglen, c'est ça aussi, hein? Je prends le noir, j'accepte Dukkha. Et alors je peux offrir la libération. C'est un mouvement qui est extrêmement profond. Lorsque Shantideva écrit ce texte sur les vœux du Bodhisattva, le Bodhisattva, c'est celui qui n'aurait pas besoin de revenir dans le monde, mais qui choisit de le faire pour aider les autres. Lui, il a plus de kilesa à transformer ou à apaiser, mais il décide de revenir pour les autres. Et c'est une pensée que je trouve très belle. De vouloir être un bodhisattva. Ma libération, ça n'est pas pour moi. c'est pour qu'elle ait des effets dans le monde. Et je vais finir avec une petite parole. Le mot sanskrit bodhicitta signifie cœur noble ou cœur éveillé. Comme il y a du beurre dans le lait et de l'huile dans la graine de sésame, le point vulnérable qu'est la bodhicitta est présent en vous et en moi. Il équivaut jusqu'à un certain point à notre capacité d'aimer. Peu importe notre détermination à pratiquer, notre manque de bienveillance, notre égoïsme ou notre avidité, le cœur authentique de la bodhicitta ne peut pas se perdre. Il est ici, dans tout ce qui vit, jamais gâché, est parfaitement entier. Nous pouvons être un petit moment en silence.